en toute franchise. Votre rendez-vous d'assurance, Baudouin de Saint-Chéraud.
Bonjour tout le monde. Nous recevons aujourd'hui Pierre-Alban Morin du groupe TMG Cybersécurité.
En toute franchise, Baudouin de Saint-Chéraud.
Bonjour Baudouin.
Bonjour Pierre-Alban, je suis ravi de te recevoir. Alors j'avais déjà fait un épisode sur l'environnement cyber. Et là je suis heureux de te recevoir aujourd'hui pour rentrer un peu plus dans le détail du risque cyber. Est-ce que tu peux te présenter, présenter ton parcours et me dire pourquoi tu as choisi de t'orienter vers le risque cyber ?
Tout d'abord, je m'appelle Pierre-Alban Morin. Le parcours est donc j'ai travaillé un peu à l'ANSSI du coup pendant 2 ans où j'ai été formé.
L'ANSSI qui est
l'Agence de cyberdéfense française, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Ensuite, j'ai travaillé un peu dans l'audit, puis dans des cabinets de conseil, et là depuis à peu près 2 ans, on monte un service cybersécurité pour la société TMG, qui historiquement faisait de l'antipiratage. Et à force de sécuriser les contenus digitaux et médias, on en est venu à devoir protéger les données. Et le pôle de cybersécurité s'est formé comme ça.
Ok, et qu'est-ce qui, toi, t'a décidé à rejoindre l'ANSSI à l'origine ?
C'est une bonne question. La passion pour l'informatique, la volonté de vouloir aider et protéger, c'est un peu tout ça.
Tu savais à l'origine que l'ANSSI, du coup, était vraiment dans cet aspect de cybersurveillance, que tu allais pouvoir travailler là-dessus, te spécialiser là-dessus. C'était quoi ? C'était une alternance ?
C'est une alternance, oui.
C'est une alternance.
Ça a commencé par un stage, puis une alternance. Oui, je savais le rôle de l'ANSSI, qui est vraiment de protéger tout ce qui est secteur sensible français en matière de cyber, qui a également un rôle de conseil à ce niveau-là, qui publie régulièrement les dernières failles, les dernières alertes.
Et est-ce que tu peux nous parler un peu plus de TMG ?
Donc TMG, historiquement, est basé dans l'antipiratage, est un grand acteur de l'antipiratage et, comme je disais, face à une forte demande croissante de nos clients, a décidé d'ouvrir un pôle cyberdéfense avec la particularité d'être spécialisé dans les TPE-PME. Alors pourquoi ce changement assez drastique, puisque l'antipiratage, c'est forcément des grands acteurs mondiaux du digital. Le choix s'est fait de façon assez simple. Je trahirai aucun secret. En regardant sur Internet, on peut s'apercevoir que TMG a été victime d'une fuite de données en 2011, je crois. Donc, il n'y avait rien de bien grave en soi, mais au niveau de l'attaque, mais c'est la façon de la gérer. TMG était une PME, n'avait pas forcément de connaissances spécifiques en cybersécurité. Et c'est en tant que PME que TMG a dû subir les audits de la CNIL, a dû subir la réponse à incident, etc., etc. Et surtout, s'armer. S'armer progressivement, sans budget. Et voilà.
Alors, excuse-moi, je t'arrête parce que du coup, il y a des choses que je ne comprends pas. TMG, à l'origine, qu'est-ce qu'il faisait ?
Alors l'antipiratage, c'est s'assurer que, par exemple, s'il y a un match de foot, un film, qu'on ne puisse pas le voir illégalement.
Ok, donc être sûr que, effectivement, tu ne le retrouves pas facilement sur le YouTube, sur...
Tout à fait, voilà. Mais par rapport à la cyber, du coup, TMG, au fil des années, a acquis vraiment une solide expérience en matière de sécurisation, mais surtout dans le contexte d'une TPE-PME qui est pas beaucoup de budget, etc., etc. Et donc il y a une bonne compréhension globale de cet écosystème qui est quand même très particulier en matière de cybersécurité. On a toujours tendance à mettre un peu les œufs dans le même panier, mais c'est le marché SMB, comme diraient nos amis anglo-saxons, est quand même très particulier.
SMB,
Small and Medium Business. Ouais, ça fait plus classe en anglais. mais le marché est quand même assez particulier puisque d'une TPE, d'une PME à l'autre, c'est des écosystèmes qui sont très différents. Une PME à la limite de l'ETI de 2000 salariés dans l'agroalimentaire ne va pas du tout avoir les mêmes contraintes, le même contexte qu'une start-up de 10 personnes dans le nucléaire, par exemple. C'est des choses qui sont assez différentes. Mais on retrouve quand même globalement certains facteurs communs en matière cyber, qui est que les échanges humains sont plus faciles, généralement, à l'inverse des grands groupes. Et c'est également plus facile dans les TPE-PME d'avoir certaines personnes qui ont une connaissance vraiment macro du contexte. Et voilà, donc c'est plusieurs choses qui vont être à la fois un gros atout et parfois des faiblesses. Donc les faiblesses, on a forcément le manque de budget, le manque de temps également, de personnes consacrées à ça, le manque d'implication, c'est vrai qu'on a souvent tendance à vouloir reporter ce genre de choses. Et du coup, TMG se positionne là-dessus pour la cybersécurité, donc principalement pour la cybersurveillance. Donc l'idée va être de superviser tout le système informatique à distance en 24/7 pour analyser, détecter les menaces et puis après voilà dans un rôle de conseil également à ce niveau-là.
OK. Et c'est en ça où le piratage, l'attaque qui a eu lieu sur TMG, du coup en 2011, a été aussi un tournant sur son activité.
Bien sûr, bien sûr.
Est-ce que tu peux revenir justement sur cette attaque, sur ce qui s'est passé, sur les obligations qui ont découlé un peu de cette attaque ?
Alors bon, ce qui s'est passé, c'est pas très grave. C'est-à-dire qu'on avait il y avait un serveur qui était exposé, qui était plus dans la prod du tout. Dans la production et il se trouve qu'il était exposé directement sur Internet, c'était un vieux serveur et il n'y avait plus de données. C'est en termes de cybersécurité, ce qu'on appelle le shadow IT. C'est l'informatique un peu fantôme dans le sens où on oublie qu'on avait connecté une machine par manque d'inventaire, de ressources et voilà, et ça tombe un peu dans l'oubli et on pense plus du tout à faire les mises à jour, à sécuriser, etc. Un petit malin s'est dit bah tiens, je vais le pirater et en le piratant, on s'est aperçu que c'était ATMG. Et donc du coup voilà a dit sur internet bah voilà j'ai piraté TMG, ce qui en un sens était vrai même si c'était pas problématique, mais du coup bah comme on traitait beaucoup de données sensibles, la CNIL, donc l'autorité qui protège les données personnelles, la Commission nationale de l'informatique et liberté, a décidé d'enquêter et
quand tu dis qu'elle a décidé d'enquêter, c'est combien de temps d'enquête et surtout moi ce que j'aimerais comprendre c'est à ce moment-là quelle était un peu la taille de TMG, quel était le nombre de personnes qui y travaillaient, quel était son chiffre d'affaires.
Le nombre de collaborateurs, on était, je pense, une cinquantaine. Voilà, comme c'est sur des serveurs assez sensibles, je suis désolé, je pourrais pas trop en dire sur le sujet, mais voilà, les enquêtes ont été relativement rapides. C'est plus après, voilà, les mesures qu'on a dû mettre en place, à commencer voilà par embaucher quelqu'un à temps plein pour la cybersécurité, ce qui à l'époque déjà encore aujourd'hui une petite entreprise avoir un RSSI c'est quelque chose d'assez rare pour une entreprise de 50 personnes, mais encore plus a fortiori à l'époque en 2011 où les risques cyber étaient très méconnus.
Et quel est son rôle du coup au RSSI ?
Alors le RSSI, alors ça dépend un peu dans les structures, mais généralement il y a un côté à la fois, il va essayer d'englober dans l'idéal les deux parties, les deux casquettes de la cybersécurité. Je parle toujours pareil dans l'univers TPE-PME, pas dans les milieux grands groupes, on a un côté beaucoup plus managérial. Le côté RSSI dans une TPE-PME, il va devoir gérer l'aspect technique de l'informatique et de la cybersécurité, donc mettre en place des mesures techniques avec les mises à jour, avec des systèmes de défense, de surveillance, etc. Et l'aspect à la fois organisationnel de la cybersécurité. Donc ça, c'est l'aspect qui va englober, par exemple, toutes les procédures, les processus à bien suivre. Par exemple, bah, je ne peux pas prendre une clé USB que j'ai trouvée par terre pour la brancher sur mon ordinateur. Il y a deux façons de bloquer ça. La première, c'est on va bloquer les ports physiques sur la machine. Ça, c'est la mesure technique. Et la mesure organisationnelle, c'est de mettre en place des procédures pour dire, bah voilà, si tu veux brancher une clé USB, il faut d'abord que tu la donnes à ton RSSI qui va l'analyser et ensuite il va te dire si tu pourras l'utiliser, etc., etc. Donc ces deux mesures qui sont très importantes et l'une ne va pas sans l'autre. S'il me suffit de prendre un téléphone pour appeler le DAF et lui dire c'est le DG et j'ai absolument besoin que tu me fasses un virement en urgence de 5 millions et que le DAF le fait sans aucune procédure, c'est que là on se rend compte, in fine, l'attaquant il aura réussi. Il aura rien piraté, mais il aura réussi. Donc le RSSI va devoir vraiment mettre en place des mesures technique et organisationnelle pour avoir une sécurité la plus globale possible. À commencer, les deux premières choses à faire, à mon avis, pour un RSSI, c'est déjà s'assurer, la première chose, c'est qu'il ait l'engagement de sa direction, que sa direction soit avec lui. A fortiori dans une PME, mais les bonnes pratiques sont que le RSSI doit dépendre directement de la direction générale. Parce que si le RSSI dépend du DSI, donc du directeur informatique, il peut souvent y avoir des conflits d'intérêts. Voilà.
Je rejoins totalement ce que tu dis parce que, alors, dans le cadre de l'assurance, souvent nous, on va avoir une discussion avec la direction générale qui ne connaît pas forcément leur système de protection et qui va demander justement à la DSI qui va se sentir attaqué sur les manières dont il a sécurisé l'entreprise. Mais c'est pas la logique. Nous, on n'est pas dans cette logique-là de chercher effectivement s'il fait bien ou mal son travail. C'est pas cette logique-là. On est vraiment dans la logique de comprendre comment ils sont organisés?
Ah bah ça, je te rejoins complètement. On voit aussi beaucoup ça en audit, où les personnes qu'on va auditer ont l'impression de se sentir attaquées et jugées, alors qu'on est vraiment dans un rôle d'accompagnement. L'idée, c'est pas c'est bien, c'est pas bien. On n'est pas là pour les juger leur métier. Je serais incapable de le faire. Donc, enfin, il y a aussi cette humilité à avoir. Mais effectivement, c'est une compréhension du sujet. Et voilà. Et du coup, le RSSI vraiment doit dépendre directement de la direction générale pour justement qu'il y ait vraiment cette séparation. Et voilà. Donc une fois que le RSSI s'assure que la direction aille dans son sens, bah, ne serait-ce que pour voter les budgets, prendre les décisions et tout, etc., etc., je sais que je peux commencer à sécuriser mon entreprise. Il va falloir faire une analyse de risque. Pas forcément quelque chose d'ultra poussé, mais l'idée, c'est de se dire quels sont mes biens essentiels à mon entreprise. On a tous des données, par exemple, les données d'un ERP pour la gestion des clients, etc., etc., des données métiers, des données de recherche et développement. Tout ça, c'est des données qui intéressent soit des pirates, soit des concurrents, mais qui sont sensibles, voire vitales, à la survie de l'entreprise.
Est-ce que, dans le cas, par exemple, d'une petite entreprise qui fait, je ne sais pas moi, de la vente de vêtements, quelles sont les données qui peuvent être sensibles pour ces entreprises-là?
Déjà, c'est tous les fournisseurs, toutes les données des clients qu'ils peuvent avoir dans leur base de données, les cartes de fidélité, donc avec, j'imagine, une adresse mail, un nom à prénom, peut-être une adresse postale, un numéro de téléphone. Donc là, on commence à stocker beaucoup de données. Et des données personnelles. Donc là, effectivement, ça commence à devenir un vrai enjeu pour ces entreprises-là de devoir se sécuriser, puisqu'il y a une obligation légale avec le RGPD, donc le Règlement européen de la protection des données, de sécuriser toutes les données à caractère personnel. Donc voilà, par exemple, cette entreprise-là, déjà, elle devrait se dire, pour ma carte de fidélité, j'ai besoin d'un nom, d'un prénom, d'une adresse si je veux envoyer du courrier, surtout les personnes âgées, généralement, aiment bien recevoir par courrier. Donc ça, c'est légitime. Une adresse mail pour... un public plus jeune ou le portable pour un public plus jeune qui préférait avoir par mail ou par texto, ça tout à fait c'est jouable. La carte d'anniversaire pour faire une remise effectivement sur le jour de l'anniversaire, mais par exemple, ils n'auraient pas le droit de demander ma couleur préférée. C'est plein de données différentes, il faut le justifier auprès de la CNIL en disant voilà, j'ai un besoin, et si la personne nous envoie un message en disant écoutez, je ne souhaite plus être contacté par vos services, veuillez supprimer toutes mes données, on a une obligation de supprimer toutes les données. Et en fait, pour protéger ces données, il va falloir protéger ce qu'on appelle le bien support. Par exemple, un cambrioleur qui veut attaquer une banque, le coffre-fort en lui-même, ça lui est égal, c'est l'argent qu'il y a dedans. Mais il va focaliser son attention sur le coffre. Et pour récupérer l'argent, là c'est pareil. Ces biens essentiels, toutes ces données vitales à l'entreprise, elles reposent soit sur des ordinateurs, ça peut passer par pas mal d'éléments informatiques du genre firewall, switch, etc. Mais également par de l'humain. Et c'est là où dans le marché de la TPE-PME, c'est très important, puisqu'on a souvent affaire, notamment dans les services IT, ou même dans les différents services, en fait, au final, d'une TPE-PME où il y a souvent une ou deux personnes par service. Il y a un directeur financier, il y a un administrateur informatique. Et ce genre de personnes ont souvent la connaissance totale. Et c'est vrai que si cette personne devait avoir un problème, ou même, il y aurait eu un problème pour récupérer les mots de passe qui sont que dans sa tête ou des informations qui ne sont que dans leur tête. Donc l'idée, ça va être de sécuriser et de redonder, donc de dupliquer les supports. Voilà, si jamais il y a un problème sur tel serveur. Donc déjà, cette analyse de risque-là va permettre, avec ce couple bien essentiel, bien support, de se dire, j'ai tant de données essentielles pour mon entreprise qui reposent sur tant de biens supports. En priorité, je vais sécuriser les biens supports où il y a le plus de données essentielles. Par exemple, c'est un exemple que j'aime bien donner à mes étudiants pour entrer un peu dans le technique. Si jamais vous avez un Windows Server, donc une machine qui va pouvoir héberger de la donnée, en dernière version, en version 2022, c'est très bien. Pas l'avant-dernière version, en 2019, vous allez vous dire, il n'y a pas encore de faille critique sur cette... c'est encore maintenu par l'éditeur, c'est pas l'urgence de le faire. Et si j'ai un autre serveur qui est en 2003, là, il y a des très, très grosses failles, la logique voudrait de vouloir sécuriser ce premier avant. Mais grâce à cette analyse de risque, si on se rend compte que le serveur de 2003 n'a aucune donnée importante pour l'entreprise, et qu'à l'inverse, le serveur de 2019 a énormément de données importantes, on va sécuriser en priorité le 2019 pour le passer en 2022. C'est un exemple parmi tant d'autres. Après, évidemment, ça s'adapte beaucoup au contexte. La notion du contexte est évidemment très importante. Ça dépend beaucoup de l'entreprise.
D'accord. Et aujourd'hui, du coup, quand vous arrivez dans une entreprise, vous faites cet audit. Mm-hmm. Vous faites des prescriptions derrière.
Bien sûr. Donc là, l'idée, c'est de faire un état des lieux cyber de l'entreprise. On est un audit de maturité, on appelle ça. Donc, voir un maximum de points. Et après, voilà, l'idée, il va y avoir des recommandations à l'issue de cet audit avec un plan d'action associé. Et comme ça, l'entreprise, c'est voilà, les gros chantiers. Il y a une grosse idée reçue dans la cybersécurité, c'est le budget. Il faut un budget de plusieurs milliers, voire millions d'euros pour s'équiper en cybersécurité. Alors, ça peut être vrai, évidemment, mais avec des compétences en interne, en informatique, et de la bonne volonté, on peut arriver à mettre beaucoup de mesures de ce qu'on appelle de durcissement. Donc, c'est protéger les systèmes informatiques avec une bonne configuration. Et ça, bah, c'est gratuit, forcément, puisque c'est natif à l'outil. Et ça peut permettre d'avoir un bon niveau de sécurité. Des boîtes de plus de 50, 100... pour aller jusqu'à 1000 ou 2000 salariés, ils commencent à avoir des DSI assez bien constitués, avec largement de compétences en interne pour ça. Après, c'est peut-être plus la notion du temps, etc., de la politique mise en place, mais c'est tout à fait possible.
En toute franchise, Baudouin de Saint-Chéreau.
Aujourd'hui, on voit quand même de plus en plus d'attaques cyber. Vous avez des clients qui sont attaqués ?
Forcément, comme tout le monde. Là, je pourrais pas trop m'épancher sur la question, mais oui, bien sûr.
C'est pas tellement le sens de ma question, là, c'est plus de savoir, quand on met en place ces mesures de protection, l'objectif, c'est pas d'éradiquer totalement une attaque cyber, puisqu'on sait aussi très bien que même si le système est totalement protégé, c'est une question de temps, de moyens à mettre en place pour pouvoir hacker le système. La vraie question, c'est justement, c'est quoi ? C'est d'essayer de les ralentir suffisamment pour qu'ils renoncent ?
La question, c'est pas est-ce que je vais me faire attaquer, mais quand ? Ça, c'est vraiment la grande question que tout le monde doit se poser, particulièrement les petites et moyennes entreprises qui, quoi qu'elles en pensent, intéressent particulièrement les hackers.
Pourquoi elles intéressent les hackers et pourquoi elles doivent vraiment s'en préoccuper ?
Elles intéressent les hackers puisqu'elles sont généralement pas sécurisées du tout, dans la mesure où bah voilà, c'est du temps, c'est de l'argent, comme on l'a dit, c'est beaucoup de contraintes. Et les petites et moyennes entreprises sont vraiment focalisées, et c'est normal, sur leur cœur de métier. Donc la cybersécurité n'étant généralement pas leur cœur de métier, il y a moins de temps, de ressources allouées pour se sécuriser. Et voilà, et du coup, les attaquants, en fait, automatisent beaucoup les attaques. Il faut savoir que les très grands groupes d'attaquants, qu'on appelle les groupes APT, sont vraiment très très bien constitués, et parfois c'est même sont structurés comme des entreprises. C'est assez édifiant à voir. Ils ont des services RH, des services comptables, il y a des offres d'emploi sur le Darknet, c'est très très bien structuré.
Vous allez régulièrement sur le Darknet pour voir un peu ce qui est vendu, vos clients ont été...
Alors pour nos clients, oui. Pour nos clients, on fait des recherches sur le Darknet pour voir s'ils n'ont pas des données qui ont fuité. Après, ça reste dans ce cadre-là. S'il y a un client qui nous demande, c'est généralement compris dans l'audit de maturité d'ailleurs, de faire pas une analyse complète, mais à minima, voir un peu en surface du Darknet, un peu ce qu'on peut trouver. On trouve généralement pas mal de choses, généralement des mots de passe, ça beaucoup. On trouve parfois des documents, des adresses mail, pas mal de données qui peuvent être intéressantes.
Donc dans tous les cas, en fait, on peut partir du principe qu'une entreprise va se faire hacker, que la plupart de nos données peuvent déjà avoir été piratées. Nous, on va pas forcément s'en rendre compte tout de suite, ou il n'y a pas encore d'utilité pour le hacker sur nos données propres.
Non, bien sûr, il y a un chiffre, alors qui est assez compliqué à vérifier la véracité, c'est des bruits de couloir, j'ai envie de dire, de 9 mois, la période de gestation, entre guillemets, d'une attaque. En moyenne, un attaquant resterait 9 mois dans un système d'information entre la compromission initiale et le moment où la victime s'en aperçoit, généralement, quand c'est trop tard. C'est généralement 9 mois. Le temps pour l'attaquant de comprendre vraiment les rouages du système, de mettre en place ce qu'on appelle des backdoors, donc des portes dérobées. C'est-à-dire que si j'ai réussi à entrer par la fenêtre, ben, je vais pouvoir ressortir et rentrer quand je veux. Mais si la personne arrive et ferme la fenêtre, il ben, faut que j'ai ouvert une autre fenêtre ou la porte ou le vélustre à l'étage pour pouvoir rentrer. Donc c'est un peu ça le principe d'un backdoor, c'est obtenir plusieurs accès différents et comprendre un peu le contexte et tout pirater un peu à la fois, même les réseaux sociaux. Et pour pirater un réseau social, on va pas s'amuser à pirater Facebook ou Twitter directement. On va tout simplement récupérer le mot de passe d'administration, essayer de la double authentification, essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait avoir accès au téléphone. Mais voilà. Et du coup, c'est pour ça que souvent j'entends, quand on parle, moi j'ai jamais été attaqué, Bah, je réponds un peu du tac au tac, c'est juste que tu le sais pas encore. Bon, sinon je suis optimiste dans la vraie vie, hein, mais c'est vrai que c'est il y a ce côté-là où c'est la un peu ce côté menace fantôme dont il faut se méfier sans non plus tomber dans la paranoïa extrême, mais il y a effectivement faut les attaquants restent longtemps dans un système avant de
parce que là en 2024, il y a eu quand même des attaques assez importantes sur des bases de données gouvernementales ou de gestionnaires de mutuelles qui ont permis quand même, de, en tout cas aux hackers, de prendre potentiellement un nombre de données énorme en termes des millions de données.
Oui, oui, j'ai vu, je crois, 43 millions de données de 43 millions
ouais,
de Français.
Pour France Travail.
Pour France Travail, oui, oui, effectivement, c'est assez affolant, bien sûr. Alors ça, je pense que c'est le contexte géopolitique, on joue beaucoup, parce que le cyberespace, c'est un peu le Far West. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de police, il n'y a rien. Donc en fait, ça attaque un peu en toute impunité d'un bout à l'autre de la Terre. Et pour plusieurs raisons, des raisons financières, mais parfois aussi des raisons idéologiques et politiques. Et effectivement, je sais que la DGSI, notamment, met beaucoup en garde les entreprises françaises à l'approche des Jeux Olympiques. Parce qu'il y a beaucoup de campagnes de déstabilisation pour les entreprises françaises via le cyberespace, notamment.
Et alors là, j'ai un peu de mal à saisir quel serait l'intérêt pour les Jeux Olympiques de.
Alors, je ne fais pas du tout de politique ni rien. C'est juste, enfin, j'imagine que si un grand nombre d'entreprises françaises devaient être à l'arrêt, ça mettrait peut-être l'économie française à mal. Enfin voilà, je.
Pendant cette période où elle est le centre.
Voilà,
de
dans
de
cette
l'attention.
Période, il y a tous les projecteurs braqués sur elle. Après ça, je mets pas trop de. Pas trop d'avis là-dessus, c'est pas du tout mon domaine, mais.
Ok. Est-ce que tu peux me dire, là, du coup, quelle est la manière, en fait, en général utilisée? Quelles sont les principales failles que tu vas rencontrer lors de tes audits? Qu'est-ce qui fait qu'en général, une entreprise se fait hacker?
Alors, c'est une très bonne question. C'est assez, assez variable. Alors, c'est un peu bateau ce que je veux dire, mais la première faille, ça va être l'humain, généralement. Alors, j'aime pas trop de parler de failles humaines, parce que déjà, c'est un côté infantilisateur. Il y a le directeur général qui a monté sa boîte depuis 40 ans, qui brasse 200 millions de chiffres d'affaires, parler de lui comme un élément faible et tout, je trouve ça bon, assez discriminant et assez osé, voilà, on va dire. Et puis c'est valable pour toutes les personnes. Mais effectivement, dans la grande majorité des cas, un attaquant va s'introduire dans une entreprise par deux moyens. Le premier, ça va être par mail, généralement. Il va mettre une pièce jointe ou un lien. Pas forcément besoin de cliquer sur une pièce jointe et de l'exécuter. Le simple fait de cliquer sur un lien, ça peut donner certains accès. Et le deuxième moyen, ça va être de récupérer des identifiants, justement, qui ont fuité sur le Darknet. Ça, c'est. Voilà.
C'est-à-dire que ça, on les achète sur le Darknet, on achète
non,
une base de données, c'est gratuit.
Enfin, ouais. Ça dépend. Alors, certaines fuites de données sont payantes, des très grosses. D'autres sont gratuites. Enfin, voilà, ça dépend vraiment. Hein. C'est très facile de récupérer ce genre d'informations. Et ensuite, une fois que l'attaquant est dans l'entreprise, les principales failles, d'ordre un peu technique, je dirais, j'en mettrai deux principalement. La première, c'est les mots de passe stockés un peu n'importe où, notamment dans les navigateurs. Il faut savoir que quand vous stockez un mot de passe, vous êtes dans Chrome, dans Firefox, et il vous propose de l'enregistrer. Vous cliquez sur « Oui, enregistrer ». C'est comme s'il était en clair dans votre ordinateur. Pour faire simple, les navigateurs, notamment Chrome, va vous dire « On va les stocker de façon sécurisée, ça va être chiffré. » Oui, mais ça va être chiffré avec l'ouverture de votre session. Donc si votre session est déverrouillée, c'est déverrouillé. Pour la forme, il va vous redemander le mot de passe si vous allez sur le navigateur, mais si vous lui demandez gentiment par un autre moyen que le navigateur, il va vous les donner. Donc ça, c'est la première grosse faille, et de tous les audits que j'ai fait, j'en ai toujours vu, et ça se récupère très facilement. Et de façon un peu plus large, les mots de passe dans les fichiers texte, que ce soit des documents Excel, des documents Word et tout, voilà, nous on a pas mal d'outils d'automatisation, évidemment les attaquants ont ça, pour récupérer facilement tous les mots de passe qui sont stockés dans les textes. Dans les petits bloc-notes, vous savez, sous Windows, vous avez un petit bloc-notes, ça s'appelle Sticky Note. Pareil, très souvent les gens, ils notent un mot de passe là pour pas l'oublier, etc. Donc ça se fait souvent. Et enfin, on retrouve aussi beaucoup de mots de passe dans ce qu'on appelle le LSA, donc c'est très technique, mais c'est le coffre-fort Windows. Microsoft sécurise beaucoup et stocke beaucoup de secrets d'authentification. Alors, c'est pas forcément des mots de passe en clair. Parfois, oui, mais dans la grande majorité, non. Et en fait, tous ces éléments-là, au niveau du poste de travail, ne sont jamais protégés. Et ça, c'est très facile, enfin, très facile plus ou moins, mais de récupérer ces informations-là. Et un antivirus classique, parce que ça, c'est un peu la deuxième faiblesse, c'est que les TPE-PME utilisent des antivirus classiques. Et ça se contourne très très facilement. Donc ça, c'est la première grosse faille, c'est la façon dont sont gérés les secrets d'authentification, les mots de passe. La deuxième grosse faille, qui découle un peu de la première, c'est la sécurité des annuaires. Alors un annuaire, qu'est-ce que c'est ? Quand vous vous connectez en arrivant au boulot le matin, on vous a donné, le premier jour où vous êtes arrivé, un nom d'utilisateur, un mot de passe temporaire que vous avez changé, et maintenant, dès que vous vous connectez sur votre ordinateur du travail, vous avez un login et un mot de passe. Et c'est pareil pour tous les collaborateurs de l'entreprise. Et en fonction du login et du mot de passe que vous avez rentré, vous avez accès à un certain nombre d'informations. Sur le serveur de fichiers, si vous êtes de la compta, au dossier compta, si vous êtes de l'IT, au dossier IT, c'est à peu près ça. Donc c'est ce qu'on appelle le SSO. On se connecte une fois pour accéder à plusieurs ressources. Et tous ces logins et ces mots de passe, ils sont stockés dans un annuaire qu'on appelle Active Directory. Le plus connu étant de chez Microsoft. Je parle beaucoup de Microsoft parce que dans la quasi-totalité des cas, on n'a que du Microsoft lors de nos audits. Mais on retrouve le même principe chez nos amis Linux ou Mac. Pareil pour les secrets d'authentification. Et en fait, ce service d'annuaire n'est jamais protégé par défaut. Et ça, je le répète, il n'est jamais protégé par défaut. À titre d'exemple, c'est une attaque que... Quand j'en ai mes étudiants, un élève de... première année, s'il est un peu doué, mais généralement en troisième année, ils savent tous faire ce genre d'attaque. Et en cinquième année, ils sont assez rodés sur un certain nombre d'attaques de l'Active Directory.
C'est-à-dire que quand on attaque l'Active Directory, on va se donner des droits d'accès...
illimités, voilà. Donc ce qu'on appelle l'administrateur du domaine. Et c'est... Généralement, on arrive très facilement à obtenir ces droits d'accès. Et en fait, plus que simplement avoir accès au serveur de fichiers, c'est un annuaire qui va permettre de contrôler les machines en elles-mêmes. Par exemple, si vous avez une politique dans votre entreprise où le fond d'écran est le logo de la boîte, par exemple, vous n'avez pas choisi. Quand vous allez dans vos paramètres, vous avez de temps en temps Microsoft ou Windows qui vous dit « certains paramètres sont gérés par votre organisation ». Et bien en fait, on peut contrôler les machines, les utilisateurs et également les serveurs sensibles avec les données, etc. Et un attaquant qui passerait par là, dans la quasi-totalité des cas, s'il compromet l'Active Directory, il peut déployer ce qu'on appelle un ransomware. C'est-à-dire qu'au lieu d'installer un logiciel de mise à jour sur tous les postes, il va installer son malware. Et ça, pour avoir demandé à plusieurs grands éditeurs de cybersécurité, ils n'ont jamais pu me dire 100%, puisque le 100% n'existe pas, mais ils disent toujours à 95, 90, 95, 98% des cas. Une entreprise qui a eu un ransomware, ça s'est fait par une compromission de l'Active Directory. Et ça, c'est dramatique, puisque par défaut, Microsoft ne veut pas sécuriser, puisque ça pourrait entraîner ce qu'on appelle les effets de bord. C'est-à-dire que si je sécurise trop, ça ne va plus marcher. Et du coup, forcément...
C'est trop sécurisé, on ne veut plus du coup l'utiliser.
Exactement, et du coup, l'idée, c'est vraiment de trouver le meilleur compromis entre sécurité et productivité. C'est tout l'enjeu du RSSU, justement.
C'est un peu tout le problème, là, justement, quand tu parlais des mots de passe stockés sur Google Chrome, par exemple. C'est sûr que c'est un tel côté facile. On a aujourd'hui tellement de mots de passe partout, pour tous les sites, la volonté, en fait, d'en utiliser plusieurs, avec certains qui ont des règles différentes. Il faut mettre des caractères spéciaux, il faut qu'il y ait des majuscules, des minuscules, qu'on ne peut pas avoir toujours les mêmes mots de passe. Et puis certains qui évoluent régulièrement. Quel conseil pratique tu peux donner pour gérer ses propres mots de passe ?
Alors oui, tout à fait. Effectivement, c'est très casse-pied de devoir taper tous ces mots de passe. Et moi, le premier, ça me casserait les pieds de devoir taper tous mes mots de passe, de retenir 150 mots de passe et tout. Donc, on peut utiliser un gestionnaire de mots de passe. Donc, c'est un coffre-fort numérique.
Qui lui est sécurisé.
Pareil, le mot sécurité ne veut un peu rien dire. La sécurité absolue n'existe pas, mais certains sont déjà fait attaquer. Mais en tout cas, ça va stocker vos mots de passe de façon sécurisée. Et surtout, vous pourrez mettre, par exemple, pour votre boîte mail, un mot de passe de 40 caractères complètement aléatoire. Vous n'aurez pas besoin de le retenir, puisque vous ferez que du copier-coller. Et au final, vous n'aurez qu'un seul mot de passe à retenir. Deux. Pour le travail, le mot de passe pour ouvrir votre session, ça vous serez obligé, et le mot de passe pour ouvrir votre coffre-fort numérique. Alors il y a des outils qu'on recommande. Le plus sécurisé, puisque en local, donc hébergé chez vous, c'est ce qu'on appelle KeePass, c'est une solution open source qui a été labellisée par l'ANSSI. Donc l'ANSSI a dit oui, cette solution elle est digne de confiance. Le problématique, c'est que c'est pas forcément très facile d'utilisation pour quelqu'un qui n'est pas du tout habitué au logiciel informatique. Et surtout, la base de données, comme elle est sur votre poste de travail, ou mettons à la rigueur sur un serveur partagé, bien la sauvegarder régulièrement. Et sinon, vous avez pas mal de solutions dites en SaaS, c'est-à-dire sur Internet, des applications sur Internet, qui peuvent être plus ou moins sécurisées. Alors, in fine, elles le sont toutes, mais comme on disait, tout le monde peut se faire attaquer. Mais parfois, certaines se sont fait attaquer. Et récemment, l'éditeur LastPass, enfin récemment, ça date il y a un an ou deux maintenant, s'est fait attaquer complètement. Bah, dans ces cas-là, il faut faire une veille, donc vérifier un peu les informations de l'éditeur que vous aurez choisi. Et si vous voyez qu'il y a une fuite de données, bah, changez absolument tous vos mots de passe rapidement. Ces entreprises sont très très réactives s'il y a une fuite de données. Vous pouvez être sûr que globalement, quand ça a été publié, l'annonce, ils ont déjà mis toutes les mesures en interne pour sécuriser. Mais en revanche, vos mots de passe sont probablement dans la nature. Donc là, changez-les tous.
En toute franchise, Baudouin de Saint-Chéraud.
C'est quoi l'impact en termes de coûts financiers pour une entreprise ?
Bah, c'est la question que je pose souvent à mes clients pour répondre à cette question, puisque ça dépend beaucoup du contexte, encore une fois, c'est bah, imaginez-vous si vous n'avez plus d'informatique du tout pendant une semaine. Comment est-ce que vous feriez ? Et généralement, la réponse est toujours la même. Bah, ce serait dramatique. Et même pour des artisans... dernièrement, là, je parlais avec une entreprise de plomberie et il me disait, j'ai pas beaucoup de salariés et tout. Ma gestion des clients, je la fais sur un fichier Excel, j'ai pas vraiment de RP, etc. Mais pourtant, ce serait dramatique parce que pour la gestion de mes factures et tout, alors que je n'utilise jamais un ordinateur. Je regarde le matin où est-ce que je dois aller et même pour une entreprise comme ça, c'est dramatique. Donc, déjà, ça serait le premier impact. Ce serait au niveau de l'arrêt du business. Là, ce serait assez embêtant. Le deuxième point qui pourrait être embêtant, c'est l'image que ça peut donner. C'est jamais un gage de confiance quand on se dit qu'on s'est fait attaquer. Et il y a beaucoup d'engouement autour de la cybersécurité de plus en plus ces derniers temps. Et du coup, on a tendance à regarder un peu comme un pestiféré quelqu'un qui s'est fait attaquer. Et c'est vrai que ça donne pas confiance. Voilà, donc il pourrait y avoir un manque à gagner par rapport à ça, un manque à gagner aussi par rapport au temps qu'on a mis à gérer l'attaque, et puis surtout après le rachat de matériel et souvent on doit faire appel à des prestataires de cybersécurité pour ce qu'on appelle pour l'investigation numérique, la réponse à incidents, etc.
Quand tu parles d'investigation numérique, de réponse à incidents, ça c'est parce que c'est des obligations
Alors c'est une très bonne question. Est-ce que c'est une obligation légale de faire appel à un prestataire de cybersécurité? En fait, c'est tout simplement du bon sens. Si je me suis fait cambrioler, j'aimerais bien savoir à minima par où est passé le cambrioleur pour fermer la porte, etc. C'est plus ça un peu la logique. Je sais pas si c'est une obligation légale.
Et savoir s'il est encore dans la maison ou pas.
Et voilà, à minima, c'est surtout ça. Après, oui, on pourrait trouver pas mal d'autres choses après qui dépendent beaucoup du contexte de l'entreprise. Par exemple, pour en revenir à l'entreprise qui vendait des vêtements, du coup, elle est obligée de s'arrêter. Donc, du coup, on peut pas payer par carte. Je suis désolé, on va devoir payer par cash. Mais en fait, non, même pas, j'imagine, parce que tout est tracé, même liquide. Donc, elle va être obligée de fermer boutique. Ça veut dire des gens au chômage technique, ça veut dire beaucoup de choses. Donc,
Ouais, on voit de plus en plus d'entreprises qui ferment, qui sont mises en liquidation judiciaire suite à une cyberattaque.
Oui, tout à fait. Alors, il y a un chiffre qui est... Donc, il y a à prendre avec beaucoup, beaucoup de pincettes, mais qui serait de 1 sur 3 aux entreprises fermes à cause d'une attaque cyber dans les 5 ans. Après, c'est un chiffre à prendre avec beaucoup de pincettes, dans la mesure où en 5 ans, il se passe beaucoup de choses. Peut-être que la cyberattaque a été un catalyseur qui a accéléré les choses. Peut-être pas, il y a beaucoup de choses, voilà. Mais effectivement, j'ai déjà vu 3 fois, et ça fait que 6 ans que je bosse, des clients qui en larmes devant moi. Parce qu'ils avaient tout perdu, donc c'est quelque chose effectivement, c'est quelque chose qui est pas à prendre à la légère.
C'est quoi sans traduire de secret la plus grosse attaque ou celle qui t'a le plus marqué?
Alors celle qui m'a le il y en a deux qui m'ont le plus marqué pour les avoir vécues, c'est 2017 WannaCry, parce que là en plus je débutais tout juste dans la cybersécurité, ça faisait à peine un mois que j'avais commencé à travailler dedans et en stage, et du coup il y avait et c'est tombé dessus, donc là ça a eu un très très gros impact. Alors l'entreprise n'a pas été touchée.
Est-ce que tu peux redonner le contexte, expliquer?
Bien sûr. Alors WannaCry, c'est une attaque qui fait pour moi très date dans la cybersécurité, puisque dans l'histoire de la cybersécurité, puisque c'est là où le grand public a découvert vraiment la cybersécurité. Le contexte, ça a été une faille Microsoft a été dévoilée en décembre 2016, janvier 2017, je ne sais plus, puisqu'il y aurait eu un groupe d'attaquants qui s'appelle les Shadow Brokers, qui aurait piraté la NSA. Donc c'est comme quand on disait tout à l'heure, pirater TMG, ça veut tout et rien dire. Mais effectivement, il y aurait eu ça, ils auraient revendiqué, et surtout ils ont publié une faille qui serait utilisée par la NSA pour leur fin de cyberespionnage. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, en tout cas c'est ce qui se raconte. Mais toujours est-il que cette faille, pour le coup, est bien réelle, et a été divulguée en janvier 2017. Il y a eu un peu de temps à voir les correctifs, mais surtout, les attaques, enfin, les personnes étaient vraiment sensibilisées à la cybersécurité et les mises à jour. Bon, c'était pas forcément trop ça à l'époque. Et il se trouve qu'un groupe d'attaquants, dont on n'a jamais su de source sûre qui c'était, ce qui est assez rare en matière dans l'histoire de la cybercriminalité.
Parce qu'en général, vous retrouvez à l'origine.
On arrive généralement
à retrouver. Ça laisse des traces quand même.
L'anonymat sur Internet n'existe pas.
D'accord, donc ça, tu sais en fait par où il est passé, tu arrives à retrouver le chemin.
C'est plus ou moins difficile, mais on peut souvent retrouver. Après, enfin, nous, à titre personnel, on ne le fait jamais parce que ça ne nous sert à rien. Savoir que l'attaquant, il était au Brésil, en Russie ou en Corée, enfin, ça ne nous changera pas, quoi. Donc, on ne perd pas de temps à le faire, mais je pense qu'au niveau étatique, oui, ils doivent pouvoir le faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'anonymat n'existe pas. Et du coup, ils ont déployé donc un ransomware. Donc, c'est un malware qui va se propager sur tous vos ordinateurs, se propager notamment via cette faille, et va chiffrer toutes vos données. C'est comme si je mettais votre téléphone, votre portefeuille, votre clé de voiture dans un coffre-fort. Je vous donne le coffre-fort, il n'y a pas de problème, tu peux le garder. Mais si tu veux la clé, tu me payes une rançon. Et voilà. Et les chiffres ont été assez affolants. Plus de 130 pays touchés, je crois, et des très grands groupes qui ont été mis complètement à bas. En France, c'est notamment Renault et Saint-Gobain, donc c'est pas non plus des petites sociétés qui ont vraiment eu beaucoup de soucis par rapport à ça. Des pays entiers qui ont eu beaucoup de problèmes, l'Ukraine, décidément les pauvres, mais je crois qu'à l'époque, ils ont eu beaucoup de problèmes, notamment au niveau bancaire. Et en plus, les gains étaient assez minimes. Les gains estimés, en tout cas, par rapport aux attaquants, étaient assez minimes par rapport à l'ampleur. Donc, on a pensé, pareil, c'est des bruits de couloir, que c'était un peu un coup d'essai, bon, qui a plutôt très très bien marché. Mais en tout cas, depuis, tout le monde s'est vraiment sensibilisé à la cybersécurité, et là, de plus en plus. Et autrement, une attaque qui n'a pas été connue du grand public, mais qui, dans le milieu de la cybersécurité, a été assez impressionnante, c'est ce qu'on appelle Log4j. Donc, c'était en décembre 2022, je crois, ou 2021. Il y a une vulnérabilité dans Apache. Donc Apache, c'est une fonctionnalité qui sert sur beaucoup de sites internet et sur la quasi-majorité. Il y a eu une vulnérabilité sur ce service qui permettait de contrôler complètement le serveur assez facilement. Et du coup, c'est vrai que quand on a vu ça, ça a été des très longues nuits d'insomnie et des cellules de crise qui ont duré très longtemps pour arriver à endiguer l'attaque pour les clients. C'est un peu comme si je vous disais... toutes les voitures qui ont des clés magnétiques ou pour les portes ou pour les portes de maison, tout ça marche plus, toutes les voitures sont ouvertes. Vite, on va aller dans sa voiture, s'assurer que, je sais pas, essayer de mettre une solution, etc.
Mais ça, aujourd'hui, on se dirige quand même vers une société qui est de plus en plus numérisée. On va avoir de plus en plus de possibilités de rentrer dans une maison, dans une voiture, par ces failles de sécurité.
Ah, tout à fait. Après, c'est un peu le jeu du gendarme et du voleur, c'est à la différence près que c'est généralement les attaquants qui ont une mesure d'avance et que les défenseurs essayent de trouver le correctif de sécurité. C'est assez difficile en matière de cybersécurité d'être vraiment proactif. Alors, il y a eu des avancées en matière de réelle proactivité pour la cyberdéfense, mais effectivement, c'est tout l'enjeu, et notamment avec l'ère, parce que là, on est vraiment à l'aube de l'intelligence artificielle généralisée et de l'internet des objets généralisés. Ça, c'est effectivement, ça va être un véritable enjeu. Alors, l'intelligence artificielle, on en fait tout un monde, c'est un nom très commercial. Je sais plus qui disait, c'est de la base de données avec statistiques avancées. Faut pas diviniser, j'ai envie de dire, l'intelligence artificielle, mais c'est vrai que ça peut faire des choses très très puissantes, aussi bien dans le côté attaquant que le côté défenseur. Mais effectivement, ça permet de générer par exemple des mails de phishing nettement plus évolués, d'automatiser beaucoup plus de process d'attaque, etc., etc. Mais à l'inverse, il faut aussi voir le bon côté des choses. C'est-à-dire que si on est dans une société de plus en plus digitalisée, de plus en plus exposée, notamment au sein même de notre intimité, par exemple avec les Alexa, enfin tous les Google Home, tous les objets connectés de la maison, etc., etc., les poupées connectées également, c'est un vrai enjeu dans le mauvais sens du terme, puisque ça peut se pirater. Typiquement, un attaquant qui contrôlerait une poupée connectée, maintenant je crois qu'il y a des poupées qui parlent, connectées et qui parlent, l'attaquant pourrait faire rejouer autre chose et lui dire, écoute, viens dehors, il y a un chat qui est perdu, etc. Enfin bon, je vous passe les détails, mais c'est vrai que c'est assez affolant. Mais après, il faut aussi voir le bon côté des choses, où la technologie est neutre en soi, on peut l'utiliser, c'est de la philosophie, mais on peut l'utiliser dans le bon côté comme dans le mauvais côté des choses. Et nous, je sais qu'on utilise beaucoup, beaucoup l'intelligence artificielle pour la défense. Je pense pas qu'il faille s'inquiéter outre mesure de ça. En revanche, effectivement, il faut vraiment prendre les dispositions qui vont avec.
J'ai une dernière question. Quand on est dans une logique de défense, pour pouvoir bien défendre, il faut aussi être conscient de la manière dont les personnes attaquent.
Bien sûr.
Du coup, vous vous formez aussi à attaquer. Vous connaissez du coup ces techniques d'attaque. Vous en cherchez toujours des nouvelles. Vous cherchez vous-même des failles.
Bien sûr, tout à fait, tout à fait. Moi, c'est quelque chose dans mon équipe. Je veux absolument que les personnes de mon équipe soient vraiment polyvalentes à ce niveau-là. Même ce qu'on appelle les analystes SOC, donc ceux qui vont être derrière c'est assez marrant, un centre de cybersurveillance et des montagnes d'écrans où on contrôle un peu tout, on supervise un peu toute la sécurité de nos clients et à des personnes en 24/7 humaines, c'est assez rare pour être souligné. Il y a toujours un humain derrière chez nous qui va sécuriser et superviser ça. Et moi, je veux vraiment que les analystes SOC soient formés également à l'attaque pour justement mieux comprendre. On comprend les deux. Pour moi, un professionnel de la cybersécurité, dans l'idéal, en cherchant le mouton à cinq pattes, mais doit être polyvalent, c'est-à-dire que il doit avoir au moins des bases de, si c'est un profil technique, mais de gouvernance, pour voir un peu, avoir cette vue vraiment macro. Et effectivement, d'un côté pur technique, il doit à la fois connaître l'attaque, donc dans le milieu professionnel, on appelle ça le pentest, et à la fois la défense. Et effectivement, nous, du coup, on fait pas mal de pentest, et du coup, faut forcément s'adapter, puisque les défenses s'adaptent. Mais du coup, nous, en tant qu'attaquants, également, on doit s'adapter. Et du coup, c'est un peu une boucle continue.
Vous faites des pentest sur vos clients?
Oui.
Ils sont prévenus?
Bien sûr, tout à fait. Ah oui, ça c'est...
Ils vous détectent?
Généralement non, ça dépend. En fait, c'est si par exemple on va essayer de passer par une fenêtre, ils vont peut-être détecter cette fenêtre, mais on va passer par une autre. Dans la quasi-totalité des cas, on y arrive.
Et vous arrivez à rentrer?
On arrive à rentrer, oui. Du pentest sans autorisation légale, c'est un délit et c'est du pénal. Et s'il y a des personnes un peu techniques qui m'écoutent, le simple fait de faire un Nmap, donc c'est-à-dire de juste regarder s'il y a des fenêtres qui sont ouvertes ou pas, c'est-à-dire qu'on est juste dans la rue, on regarde juste s'il y a des fenêtres qui sont ouvertes sur le bâtiment, c'est déjà du pentest, c'est déjà illégal. Et il faut, pour faire du pentest de façon légale, il faut une autorisation explicite du propriétaire du SI, donc si c'est un client, il faut une autorisation écrite. Et bien sûr, puis après, nous, on a des assurances derrière, évidemment, pour en cas de problèmes,
oui,
sur de responsabilité civile. Généralement, donc, toutes les entreprises ne le font pas, mais on propose en tout cas aux clients, quand on fait nos pentests, qu'il y ait une personne du service informatique qui soit derrière nous, qui puisse voir ce qu'on fait. Et on lui explique, voilà, là on fait ça, est-ce que c'est bon pour vous ou pas, enfin voilà. Et voilà, et si la personne nous dit, non là je veux pas, on risquerait d'abîmer la production, il n'y a pas de problème. Du coup, on notifie juste dans le rapport, en gros, on a vu que la porte était ouverte, on vous conseille de faire ça pour la fermer, après on n'a pas pu tester. Mais voilà, on vous conseille, enfin, en gros, croyez-nous sur parole.
Aujourd'hui, qui pour toi devrait vraiment mettre en place une stratégie cyber? Quelles entreprises devraient le faire? Et quel devrait être leur budget?
Alors, qui? Tout le monde, ça c'est clair et net. Je discutais dernièrement avec un ami qui est boulanger, qui a son compte, et donc il est tout seul. Et même lui, je disais, fais attention. Alors, dans ces cas-là, il n'y a pas besoin de faire appel à un prestataire de cybersécurité. Tu as ta boîte mail, tu as tous tes documents. En gros, lui, il travaille qu'avec Excel et tout. Tu te prends un Google Drive, tu les mets dedans, tu mets un mot de passe fort, double authentification, tu fais tes sauvegardes régulièrement, mais tu ne laisses pas tout sur ton ordinateur et tu fais très attention à ça. Mais en soi, tout le monde a besoin de cybersécurité, ça c'est clair et net. Même un indépendant a besoin de cybersécurité, même s'il ne travaille jamais avec l'informatique. C'est simple, celui qui n'a pas besoin de cybersécurité, c'est celui qui n'utilise jamais, jamais, jamais d'informatique. Ce qui n'existe plus aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il y a pas mal de mesures qu'on pourrait mettre en place, à la fois justement techniques et organisationnelles. J'essaie de donner sur LinkedIn des conseils gratuits justement à ce niveau-là, donc s'il y en a que ça intéresse...
Ils peuvent te suivre sur LinkedIn et avoir
voilà, j'essaie de donner justement ces conseils gratuits, de choses gratuites à mettre en place. Et après, le budget, ça dépend. Supposons une entreprise qui est un service informatique compétent, qui puisse mettre en place de bonnes mesures de durcissement, c'est déjà pas mal. Et à la fois un DS, donc pour le parti technique, et un DSI qui mettent énormément de procédures, de processus mis en place, une politique de sécurité, des juristes qui pourraient faire une charte informatique opposable juridiquement, etc., etc. Toutes ces mesures-là, l'entreprise a les ressources en interne. Et ben, il y aura quand même des choses malheureusement qu'elle devra payer, notamment ce qu'on appelle un EDR. Un EDR, c'est Endpoint Detection Response. C'est très vulgairement un antivirus avec intelligence artificielle. Les antivirus classiques sont complètement dépassés aujourd'hui, c'est très facile de les contourner. C'est pour ça qu'on a rajouté des moteurs d'intelligence artificielle pour la détection des menaces. Et ça, pas obligé de faire appel à un SOC, donc un centre de cybersurveillance comme le nôtre, même si c'est fortement recommandé, parce qu'il y a au moins le 24-7, et si l'attaque arrive la nuit ou en plein mois d'août, pendant les congés de tout le monde et tout, il y a au moins des gens qui réagissent. Mais à minima, avoir un EDR sur chacun des postes, ça, pour moi, c'est quelque chose qui n'est plus négociable aujourd'hui, puisque les menaces évoluent tellement vite. Même si tout est bien sécurisé, avec les bonnes mesures de durcissement, même s'il y a des bonnes procédures et des bons processus en interne pour tout sécuriser, même si les collaborateurs sont très, très sensibilisés, ne cliquent sur rien, tout le monde peut se faire avoir, en fait, et il faut éradiquer la menace. Et il suffit d'une fois, exactement. C'est un peu comme en moto, il y a quelques années, je faisais un peu le débile et je m'étais dit, tiens, c'est marrant, essayer de toucher le cale-pied par terre quand il pleut, quand on part à pleine balle et sur un angle vraiment à 90. Alors que j'avais le permis que depuis 2 ans. Bon, c'est débile. Forcément, j'ai fait un gros câlin à la route et plus de moto et quelques bobos. Et c'est un peu ça l'attaque, c'est-à-dire que si jamais je fais de la moto tous les jours pendant 50 ans, je vais forcément avoir un accident, c'est pas être... c'est assez dangereux, les usagers roulent n'importe comment. Mais si, à minima, je fais attention à la façon dont je roule prudemment, je respecte les distances de sécurité, etc., etc., et j'ai un bon équipement, je vais peut-être tomber une fois, mais j'aurai un bon équipement, j'aurai pas grand-chose, etc., etc. Donc, c'est vraiment comme ça, la cyber, qu'il faut le voir, c'est-à-dire... on va se faire attaquer puisque sur 50 ans, il va forcément y avoir des attaques. Donc, retardons au maximum l'échéance avec des détections de réponses d'attaques avec les EDR, des systèmes de défense efficaces. Et dans ces cas-là, une fois que ça arrive, de pouvoir avoir cet esprit de résilience, c'est-à-dire de pouvoir vite identifier d'où vient l'attaque, endiguer l'attaque, restaurer les sauvegardes et reprendre l'activité. Et pour ça, la notion de sauvegarde est importante et la notion de cyberassurance également.
Exactement, pour pouvoir financer aussi les pertes, les risques et puis les professionnels qui vont intervenir sur la sauvegarde. Merci beaucoup Pierre Alban.
Merci Baudin.
Vous souhaitez qu'un sujet soit abordé ? Vous voulez être mis en relation avec un expert ? Vous souhaitez revoir vos assurances ? Envoyez un mail à podcast@saintchéreau.fr.